Un nouveau rendez-vous de Wagon Livre sur votre radio locale. Bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, c'est le 150e numéro de votre magazine littéraire sur Radion, une émission apparue sur les ondes en Bourgogne en novembre 2010. En tout cas, ce soir, une fois de plus, on va essayer de vous passionner et on va y arriver notamment avec le dernier ouvrage de notre invité, qui est Claude Lougneau. Claude Lougneau, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes devant le micro de Wagon Livre pour un ouvrage qui est sorti, je crois, au printemps 2013, il faut le
oui,
dire.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et qui a pour titre « La Bourgogne, la nuit », avec trois mots-clés, « Mystère, fantasmes et réalité ». Et cet ouvrage est disponible aux éditions de Bourgogne. Alors, vous avez donc fait paraître ce livre qui n'est pas qu'une collection de mystères, de sortilèges ou de légendes, c'est une histoire de la nuit, depuis l'origine de l'écriture, essentiellement en provenance, pour les plus anciens, des textes des moines, c'est-à-dire 14e, 15e siècle.
Oh, bien avant. En fait, quand on s'attache à étudier un sujet, quel qu'il soit, le problème, c'est évidemment les sources écrites, parce que les sources orales sont oubliées depuis longtemps, d'évidence. Alors, les premières chroniques dont nous disposons en Occident datent de l'an 1000 pour les moines, hein. Donc, c'est un moine qui s'appelait Raoul Glaber, qui est né, qui s'est mis à écrire, qui a vécu à la pliure de l'an 1000. Il a dû mourir aux environs de 1045. Et donc, grâce à lui, on a en quelque sorte une histoire de la Bourgogne, donc à cette époque-là. Il entendait écrire, parce qu'il avait des vues extrêmement larges, il entendait écrire une histoire de la chrétienté, mais bon, il faut quand même faut être lucide, c'était beaucoup moins... disons que son but était extrêmement ambitieux, mais que, évidemment, le résultat est beaucoup plus modeste.
Vous commencez donc votre livre avec les moines de Cluny, et l'ouvrage se termine à l'aube des temps modernes, lorsque l'éclairage nocturne a été vaincu dans les villes par la démocratisation de la fée électricité.
Voilà.
Là encore, le mot « fée » a un retentissement bien particulier.
C'était bien entendu voulu, mais c'est pas une invention qui m'est propre, dans la mesure où la fée électricité, on l'appelait comme ça au début, parce que, évidemment... Les traditions vernaculaires donnaient une grande importance aux fées, aux personnages de la nuit, et qui sont d'ailleurs les héros de mon livre. Et donc, ceux qui ont démocratisé l'invention d'Edison, l'électricité, ont donc repris un terme traditionnel pour qualifier cette nouvelle invention qui s'appelle l'électricité, qui effectivement était féerique, parce qu'elle elle parvenait à vaincre les ténèbres qui ont toujours fait peur à l'homme.
Alors, je me dois quand même de préciser, Claude Lougneau, que vous êtes un ancien journaliste, notamment au Bien Public.
Voilà, j'ai donc passé plus de 30 ans au Bien Public, et j'ai collaboré pendant une dizaine d'années au journal de Saône-et-Loire. Je me préoccupais de cinéma, je faisais une rubrique cinéma.
Alors, vous n'en êtes pas à votre premier livre, vous avez publié notamment aux éditions de l'Armançon des nouvelles, une pièce de théâtre et d'autres essais.
Oui, je suis multifonction.
Sur Chalon-sur-Saône, multifonction.
Voilà, en écriture. Je suis un spécialiste de la non-spécialisation comme tout bon journaliste.
Claude Lougneau, dites-nous, la nuit est une période, traditionnellement, c'est une période de repos, et par définition, il ne se passe rien la nuit. Et votre livre prouve tout le contraire. Et justement, on va parler un petit peu quand même de la nuit au Moyen-Âge, notamment à travers les témoignages du moine Raoul Glaber. Quand on pense aux nuits du Moyen-Âge, dans les cloîtres, les nuits sont pas si calmes que ça, elles sont même plutôt agitées pour certains moines, avec des apparitions, des visions ou de défunts, ou alors la pire des visions, c'est tout de même celle du griffu, celle du diable.
Le diable, bien sûr, mais je voudrais revenir, d'évoquer ce triste personnage, je voudrais revenir à votre introduction. Effectivement, quand j'ai caressé l'idée d'écrire ce livre, j'en ai parlé évidemment à mon entourage, à mes amis, à ma famille, et ils m'ont dit, mais enfin, c'est une bonne idée, bon, ils sont polis, c'est une bonne idée, mais enfin, la nuit, il se passe rien. La nuit, on dort, il fait noir, il n'y a rien à voir. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il y a plein de choses intéressantes que j'ai justement essayé de thésauriser et de mettre noir sur blanc dans ce livre, dont le diable. Le diable qui avait une extrême importance au Moyen-Âge. Évidemment, parce que c'était l'ennemi, le contraire de Dieu. Tout à fait comme la nuit paraît être le contraire du jour. Vous savez, on dit la nuit, tous les chats sont gris, mais en fait, si c'est une nuit sans lune, que vous êtes dehors sans aucun éclairage artificiel, la nuit, les chats ne sont pas gris, ils ne sont pas du tout. Ils n'existent pas, sauf s'ils se mettent, par exemple, à gémir, à geindre, à griffer quelque chose. Là, qu'est-ce qui se passe ? La vue, qui est le sens primordial chez l'homme, est gommée, par définition, puisqu'il fait nuit. Donc, prennent le relais les autres sens. Donc, évidemment, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et imaginez une nuit sans lune, vous êtes perdu, il y a un chat, vous ne le voyez pas, et il se met par exemple à geindre, à gémir. Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un bébé? Donc, obligatoirement, la peur s'installe. Et c'est exactement ce qui se passe au Moyen-Âge, lorsque la nuit s'empare des monastères et que les moines, dont c'est la vocation première, doivent combattre le diable, le griffu, le malin. Et que font-ils? Ils rêvent ou bien ils le combattent réellement. Et pour le combattre réellement, faut le voir. Et il y a donc à Cluny des apparitions du diable, dont Raoul Glaber rend compte.
Alors, pareil, on ne saura jamais si ces récits de vision nocturne ne sont pas aussi métaphoriques d'une foi qui veut mettre en avant l'affrontement entre Dieu et le diable.
Très difficile à dire. Comme on en parlait tout à l'heure, vous êtes dehors une nuit sans lune, vous ne voyez rien, vous entendez un bruit. Si vous êtes croyant, pourquoi ça serait pas le diable qui s'apprête à venir vous chatouiller les orteils? Donc, en fait, c'est une question de foi et aussi de politique, bizarrement, parce que qu'est-ce que fait le moine? Le moine, ce pourquoi on le paye, parce qu'il vit, évidemment, il n'a pas de salaire avéré comme de nos jours, on exerce un métier, on a un patron, ou on est son propre patron, mais on a un salaire. À l'époque de Cluny, c'était des offrandes, des oboles. Et d'ailleurs, les nobles qui les seuls avaient une puissance pécuniaire, parce que évidemment le cerf n'avait rien du tout, même pas sa liberté, il travaillait tout le temps, et donc les nobles achetaient le paradis, et pour ce faire, ils demandaient aux moines de prier pour eux. Et évidemment, le moine devait combattre le mal sous toutes ses formes, et le diable en était une de ses formes. Donc le simple fait qu'il y ait manifestation maléfique à Cluny prouvait que l'ennemi était là et qu'on devait le combattre, d'où la politique.
Première escale en chanson, Claude Lougnot, c'est vous qui d'ailleurs avez choisi le titre que nous allons entendre. Alors, vous avez craqué pour Nolwenn Leroy, juste pour me souvenir, c'est un titre de 2012. On se retrouve dans une poignée de minutes avec vous, donc Claude Lougnot, pour La Bourgogne, la nuit, mystère, fantasme et réalité, aux éditions de Bourgogne.
Voilà que le vent rôde, tourne contre la falaise, que la marée taraude. Ce ne sont pas des larmes, ni même de la rosée, que mon visage réclame. Juste un peu de buée, un peu d'eau et de sel, juste pour me souvenir que derrière les nuages du ciel se cache ton sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. Je marche sur la grève où les bateaux s'échouent, mais jamais la marée ne ramène nos hommes jusqu'à nous. Le vieux phare allumé, tranchant comme une lame, me rappelle que Zinka avait laissé chez lui sa femme qui marchait dans le sel, juste pour se souvenir que derrière les vagues du ciel se cachait son sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit.
D'œil sur l'émission de mercredi prochain, nous vous proposerons un entretien avec Macha Merrill, que nous avons rencontré le 21 février dernier à Dijon, alors que la comédienne était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne. Macha Merrill sera donc devant notre micro, c'est à noter, donc le 26 février prochain à 21h sur Radion. Mais pour l'heure, il nous apporte ses lumières sur la nuit en Bourgogne. Ancien journaliste et écrivain Claude Lougnot et l'invité ce soir du 150e numéro de Wagon Livre sur votre radio locale. Alors Claude Lougnot, on va quitter un peu l'univers des moines et des cloîtres du Moyen-Âge. Le livre, bien sûr, a une perspective historique, on l'a dit, qui va donc de l'an 1000 jusqu'à l'arrivée et la généralisation de l'électricité. Parlons un peu quand même de la sorcellerie, parce qu'on a a parlé du griffu, on a parlé des visions qui peuvent être des visions de créatures célestes, des visions terribles, de défunts aussi parfois. Alors l'univers de la sorcellerie, c'est un univers bien particulier, j'imagine qu'on pourrait faire une émission entière sur ce thème de la sorcellerie. Et j'y ai appris notamment en vous lisant qu'il y avait eu, en puisait dans le département de Lyon, finalement était une grande terre de sorcières et de sorciers.
Oui, alors ça, bon, on ne peut pas expliquer exactement géographiquement pourquoi géographiquement il y a de telles manifestations de sorcellerie dans tel ou tel département. Hein, c'est pareil par exemple pour le Morvan, le Morvan saône-et-loirien, où il y a beaucoup de sorciers. Alors à quoi c'est dû, on ne sait pas exactement. Certainement, on peut dire que c'est certainement géographique dans la mesure où c'était des zones assez reculées.
Plutôt rurales donc.
Oui, donc plutôt rurales, les messes noires ne se passent jamais en ville, si ce n'est dans le fantasme des cinéastes.
Alors qu'est-ce qu'un sabbat ?
Alors un sabbat,
c'est une messe à l'envers.
Justement, c'est une messe noire où tous les ingrédients de la messe, si vous voulez, sont retournés. C'est-à-dire, il y a une hostie, mais on assure qu'il y a un bouc qui a uriné dessus. Enfin, c'est souillé, quoi. L'eau bénite, c'est de l'urine. Donc tout est à l'envers. D'ailleurs, un petit peu, et les traditions se rejoignent symboliquement, un petit peu comme le carnaval, qui est une mise en perspective de la vie dans la cité, mais à l'envers. Les hommes deviennent des femmes, voilà.
Le roi devient bouffon et les bouffons deviennent rois.
Exactement. Et c'est le principe de l'inversion des valeurs symboliquement.
Alors, vous vous êtes plongé dans des textes du XVIIe siècle, dans des articles de gazette qui racontaient des procès de sorcellerie, des sorcières qu'on imagine avoir été brûlées parfois en place publique.
Oui, ben les sources sont extrêmement nombreuses parce que tous ces phénomènes, c'est un petit peu comme le parapsychique, Uri Geller en son temps quand il tordait les petites cuillères. Donc l'esprit humain est fasciné par l'irrationnel, disons. Et donc les messes noires, la sorcellerie, ça fait partie de l'irrationnel. On n'a jamais réussi à prouver exactement l'existence de Dieu, scientifiquement, si je puis dire. Bah, il en est de même, évidemment, du diable.
Alors, il y a une affaire dont vous parlez dans La Bourgogne la nuit, c'est l'affaire Barbe Buvet, une affaire qui se situe au milieu du XVIIe siècle.
Oui, c'est ça.
Et qui va durer 5 ans et qui va tenter de prouver que cette femme était...
Alors, comme d'habitude dans ce genre d'affaires, tout est très flou. C'est comme les diables de Loudun. Bon, il faut pas oublier, encore une fois, la perspective politique. On est en pleine contre-réforme catholique, donc qui attaque évidemment
les dogmes.
Le protestantisme. Et donc affirme ces dogmes par rapport à la critique qu'émettent les protestants par rapport au pape, enfin la tradition catholique et toutes ces sortes de choses. Alors donc c'est un petit peu comme pour Cluny, il faut prouver qu'on est le champion. Et le champion, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est celui qui combat le mal, le plus radicalement possible, et en l'occurrence, le mal, c'est le diable pour le chrétien. Et donc, il faut montrer qu'on a des ennemis puissants, et donc qu'on est parfaitement capable de les combattre. Voilà, ça c'est le cadre. Alors les procès de sorcellerie, bien évidemment, il y a une énorme fantasmatique, une hystérie. Je rappelle qu'hystérie, ça vient d'utérus, hystéria. Et donc, en théorie, seules les femmes en étaient atteintes. Et on trouve effectivement beaucoup de cas de religieuses, sans faire de sexisme, possédés par le diable. Et ceux qui possédaient, les félons dans l'histoire, les sorciers, c'était exclusivement des hommes. Donc il faut y voir quand même, il y a une forte connotation sexuelle, comme dans l'affaire des diables de Loudun. Dans l'affaire des diables de Loudun, ça s'est terminé tragiquement pour le pauvre prêtre qui était mis en cause. C'était aussi tragique à Auxonne, mais indirectement. Donc cette fameuse Barbe Buvet, possédée du démon, qui possédait elle-même les âmes de ses coreligionnaires, les autres sœurs, n'a pas été punie directement. Elle était bannie d'Auxonne, et puis elle a terminé ses jours dans un autre couvent. Mais par contre, il y a eu des émeutes populaires, et à Auxonne même, trois laïcs ont trouvé la mort. Mais autrement, tout ceci, c'est des cas de possession, encore une fois, il faut y voir une fantasmatique à l'œuvre.
Alors quittons justement ces aspects terribles de sorcellerie qui ont donné lieu quand même à tous les excès du pouvoir religieux et politique. Les Gaillardons de Chalon-sur-Saône, là on est dans un aspect beaucoup plus trivial, plus sympathique.
C'est effectivement beaucoup moins tragique. Tout le monde connaît le carnaval de Chalon-sur-Saône. Hein, il perdure depuis les grandes foires qui ont été non pas instaurées par les ducs mais confortées par les ducs, donc au XIVe, XVe siècle. Et une tradition populaire est venue se greffer là-dessus le jour du Mardi Gras. Et on retrouve donc dans cette tradition des acteurs. Et les acteurs, il faut les voir, encore une fois, à Dijon, au temps des ducs, c'était la mère folle, la compagnie de la mère folle, c'est un intitulé sympathique, et donc c'était des travestis, comme le terme l'indique, qui menait joyeuse vie dans les rues, défilait en cortège avec des chars, chantait, dansait, enfin s'amusait fort. Et comme les liens entre Chalon et Dijon au Moyen-Âge étaient très, très conséquents, les Chalonnais ont un petit peu copié les Dijonnais et ont instauré la compagnie des Gaillardons. Alors évidemment, Gaillardon dit gaillard.
Beaucoup
de farces, beaucoup de bruit, beaucoup de trompettes, beaucoup de chants, beaucoup de danse. Mais par contre, cette compagnie était célèbre au XVIIe siècle, notamment le prince de Condé, de passage à Chalon, a demandé à les rencontrer. Donc c'était des gens qui... parce que les nobles à cette époque savaient aussi s'amuser très fort, contrairement à nos hommes politiques. On voit pas un homme politique taper sur le ventre d'un gaillardon. Non, c'est pas possible devant une caméra. Alors qu'à l'époque il n'y avait pas de caméra, mais ils s'amusaient. Donc on voyait le comte, le duc avec ces gens-là qui festoyaient.
Voilà. Toulouse, vous avez parlé de tumulte, de bruit, d'agitation. Peut-être pourrions-nous rappeler ce qu'est un charivari ?
Alors, un charivari...
C'est quelque chose de bien codifié, quand même.
Oui, alors c'est des fêtes organisées, parce qu'autrement, évidemment, imaginez une fête qui n'aurait pas de règles du tout. Bon, ça serait l'émeute. Une fête qui n'a pas de... c'est une révolution, en fait. Le peuple prend le pouvoir, alors que là, c'est le peuple prend d'une certaine manière le pouvoir aussi, mais il y a des règles. Alors, on se moque des puissants, on se grime, d'où la tradition des masques. La tradition des masques, Quand vous aviez, moi je me souviens, on achetait à l'époque des masques de Pompidou, on achetait des masques de De Gaulle, et donc c'était les hommes politiques qui étaient célèbres. C'était une façon de s'en moquer, mais en même temps en effigie. C'était un exutoire, quoi. Et c'est ça le charivari. C'est un exutoire, comme le Mardi Gras, le carnaval, ce sont des exutoires. Ce jour-là, tout est permis. Mais évidemment, dans certaines règles, il est interdit de tuer, il est interdit de violer, donc de se livrer à des voies de fête.
Pas de charivari à l'antenne, mais une nouvelle pause musicale
avec
choisie
plaisir
par notre invité, Claude Lougnaud, pour son essai « La Bourgogne, la nuit, mystères, fantasmes et réalités » aux éditions de Bourgogne. Et Claude Lougnaud, eh bien, vous avez choisi de nous faire écouter, et je trouve que c'était un bon choix, c'est Zaz, « Je veux ». On se retrouve dans quelques minutes. Bonne soirée sur Radium.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Avant de retrouver notre spécialiste de la nuit en Bourgogne, je voudrais partager avec vous le sens d'une expression dijonnaise. Il s'agit de souffler les pois. Alors ça veut dire, quand on souffle les pois, P-O-I-S, ça veut dire que l'on dort bruyamment comme lorsqu'on souffle sur son assiette pour la refroidir, souffler sur les pois. Claude Lougnot, vous connaissiez cette expression ?
Eh bien, je la connaissais et mes grands-parents sont originaires de la Haute-Saône et nous, on disait « souffler les gaudes ». Alors, les gaudes, c'était une farine et c'était absolument horrible comme goût, mais enfin, c'était très populaire.
Claude Lougnot, vous êtes ancien journaliste au Bien Public, vous avez été chroniqueur au journal de Saône-et-Loire, vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres, des essais, des nouvelles, notamment aux éditions de l'Armançon, des biographies, du théâtre et même un roman.
Oui.
Et ce soir, vous êtes devant notre micro pour La Bourgogne, la nuit, mystères, fantasmes et réalités aux éditions de Bourgogne. Parlons de la nuit de Noël. Alors, il y a les nuits profanes, il y a les nuits sacrées et... Parlons, si vous le voulez bien, Claude Lougnot, de cette fête de Noël, que l'on soit chrétien ou pas, c'est toujours la nuit de Noël, une nuit bien spécifique.
Alors ça, c'était l'importance des fêtes populaires avant l'avènement des temps modernes, ce que Henri Vincenot appelait la civilisation lente. Et donc, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas la fée électricité qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors, que faisaient les gens ? Eh bien, ils se rassemblaient. Et toutes les occasions étaient bonnes. Alors, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a les fêtes profanes. Donc le carnaval,
la chandeleur,
voilà. Alors et puis il y a les fêtes sacrées qui font intervenir donc la divinité. Et parmi ces fêtes, évidemment, la plus importante, c'est Noël.
L'Avent avait apparemment une valeur plus importante qu'il n'a aujourd'hui.
Alors l'Avent, bien évidemment, parce que maintenant les fêtes religieuses se sont laïcisées. C'est évident que maintenant la participation à la messe de minuit est beaucoup moins importante, par exemple, qu'au 19e siècle, et évidemment encore antérieure. Et cette perte de dimension du sacré fait que les traditions, eh ben, évidemment, meurent. Alors, pour en revenir à la veille de Noël, ça concernait toute la famille, toute la société, puisque, comme on vient de le souligner, le sacré avait une extrême importance. Alors, que faisaient les gens ? Je me suis surtout préoccupé des campagnes, parce que dans les campagnes, les traditions sont restées vivaces beaucoup plus longtemps qu'en ville. Que faisait le pater familias, le père de famille ? Eh bien, il se préoccupait déjà de trouver une bûche, une énorme bûche, donc qu'il allumait lui-même et qui devait brûler pendant toute la nuit. Alors, pour ce faire, il employait des bois nobles. Alors, c'était les bois de soit le chêne, soit les fruitiers, les arbres fruitiers. Et donc, la bûche étant mise dans l'âtre, il prenait toutes ses précautions. C'était presque un rituel pour allumer le feu sous la bûche. Et avant ça, les enfants s'asseyaient sur la bûche. Et ça leur portait, paraît-il, bonheur. Mais dans d'autres portions de la Bourgogne, par contre, c'était pas conseillé parce que ça amenait des furoncles. Donc il fallait mieux s'en passer.
Donc cette bûche dans l'âtre est restée dans cette bûche pâtissière que l'on consomme ?
Alors évidemment, oui, tout à fait. C'est une, comme évidemment les cheminées toujours en ville sont de moins en moins nombreuses. Donc on a gardé symboliquement la tradition, mais maintenant la bûche, on l'ingère, on la mange. Elle est en chocolat, elle est en... Alors donc j'en reviens à cette bûche, et Lamonnois, donc l'écrivain bourguignon bien connu du XVIIIe siècle, disait que la bûche pissait. Alors qu'est-ce qu'elle pissait ? Eh bien, aux extrémités, donc une fois qu'on a eu mis le feu, elle pissait des noix, des jouets pour les enfants. Et pour la faire pisser, ils tapaient dessus à coups de bâton. Donc ça crée évidemment des gerbes d'étincelles, c'était très joli, et pendant que l'attention des enfants était détournée, les parents glissaient et disaient « Ah, regarde, le petit Jésus t'a amené des cadeaux ». Parce qu'à l'époque, le Père Noël, c'est une tradition récente. À l'époque, au XIXe siècle, c'était le petit Jésus.
La bûche pisseuse, donc, dont vous parlez dans votre livre. Et puis, magie encore de Noël, Claude Lougnot, la nuit de Noël, les animaux parlent.
Ah oui, alors ça, les animaux se mettent à parler. Ça, c'est un cadeau fait par le petit Jésus, justement, aux animaux qui lui ont tenu chaud la nuit de sa naissance. Il était environné donc du bœuf, de l'âne, donc du mouton. Et pour les en remercier, il a donné, selon la tradition, le don de la parole aux animaux lors de la nuit la plus sacrée de l'année pour la chrétienté, la nuit de Noël.
Il y a vraiment de très belles pages sur cette nuit sacrée de Noël dans votre ouvrage, Claude Lougnot. Alors, on se décale un peu vers les nuits profanes cette fois-ci, alors on pourra pas toutes les évoquer, mais j'aimerais que vous expliquiez à nos auditrices et auditeurs ce que sont les escrègnes à Dijon et constituent qui existaient dès la seconde moitié du XVIe siècle, les escrègnes.
Oui, mais même avant, on les note au XIVe, XVe siècle. Et les escrègnes, eh bien, il faut se représenter Dijon à l'époque au Moyen-Âge, au temps des ducs, par exemple, au XVe siècle. C'était une toute petite ville, rien à voir avec le Dijon actuel, qui est vraiment la capitale de la Bourgogne. Et en fait, les grands-ducs venaient assez peu souvent à Dijon. Ils habitaient plus en Flandre, plus volontiers en Flandre. Et donc Dijon, petite ville, ramassée derrière ses murailles de protection, ses remparts, ville relativement donc modeste, pauvre, et les gens avaient des problèmes pour se chauffer et évidemment pour s'éclairer, parce que les bougies coûtaient très cher à l'époque. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils construisaient des petites cadoles en torchis dans les rues mêmes, rue des Forges notamment. Et donc c'était
des petites huttes,
des huttes exactement, donc qui devaient contenir peut-être une vingtaine de personnes au maximum. Et donc c'était surtout les soirs d'hiver. Ils organisaient des veillées. Alors pendant les veillées, donc tout le monde était convié, hein, les jeunes, les vieux, et les dames ravaudaient, rapiéçaient les habits, cousaient, les hommes faisaient rôtir des châtaignes et racontaient des histoires. Et notamment, il y avait des énigmes. Et ces énigmes, ils se les passaient donc de cadole, d'escrègne en escrègne, et celui qui gagnait, ben alors qu'est-ce qu'il gagnait ? L'histoire ne le dit pas, mais il y avait obligatoirement un vainqueur, et il rapportait un lot s'il trouvait la solution. Donc c'était en quelque sorte une organisation de la vie civile.
Alors beaucoup de récits scatologiques aussi, ce qui a donné en fait naissance à ce qu'on appelle le bourguignon salé.
Le bourguignon salé, dont les mérites sont vantés par un grand chroniqueur de l'époque des ducs, c'est-à-dire Aimé Piron, donc qui raconte ces histoires. C'est par lui que nous sont arrivés qu'on perdurait la tradition justement des écraignes.
Alors on va quitter la nuit un court instant, Claude Lougnot, pour réécouter un titre d'Alain Chamfort. On redécouvre ce titre qui date de 1979, c'est Manureva, c'est donc Alain Chamfort. Bonne soirée à bord de Wagon Livre, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Claude Lougnot.
Sur les récifs de Santiago de Cuba.
qui a dit que la nuit était réservée au sommeil et qu'il ne se passait rien entre le coucher et le lever du soleil? Dès que l'obscurité envahit le monde des vivants, ceux-ci se trouvent et se retrouvent confrontés à un nouvel univers peuplé de mille et un personnages, diables, sorciers, lutins, fées, revenants, dames blanches, loups-garous, des thèmes passionnants traités avec érudition dans l'ouvrage de notre invité Claude Lougnaud pour « La Bourgogne, la nuit, mystères, fantasmes et réalités », un ouvrage que l'on trouve en librairie aux éditions de Bourgogne. Restons encore un tout petit peu, Claude Lougnaud, sur les nuits profanes. Alors, dans le catalogue des nuits profanes, on peut mentionner la Chandeleur, il y a la Saint-Jean, il y a les Brandons, la tradition des mets, et bien sûr le carnaval. Alors, vous n'avez que l'embarras du choix, Claude Lougnaud, je ne sais pas, de quelle nuit profane vous passionne plus qu'une autre?
Alors, attention, je voudrais préciser une chose. Quand vous dites nuit profane, bon, c'est devenu profane à notre époque, puisqu'on ne croit communément plus en rien. Mais toutes les fêtes que vous venez d'évoquer, la Chandeleur, la Saint-Jean, les Brandons, ont une origine sacrée. Et je dis bien sacrée, je ne dis pas exclusivement chrétienne, parce que la chrétienté a supprimé, si on peut dire, certaines fêtes donc traditionnelles païennes, pour placer à la place une célébration chrétienne. Notamment le 25 décembre, il y a peu de chances pour que le Christ soit né à cette époque-là, d'après les spécialistes. Mais par contre, qui est-ce qui est né le 25 décembre? Vous trouvez une divinité grecque qui s'appelle Mitra, qui est née le 25 décembre dans une grotte. Et ça rappelle obligatoirement aux chrétiens que nous sommes quelque chose.
C'est vrai que vous expliquez que primitivement la nuit de Noël était mobile et qu'elle a été fixée le 25 décembre en 336.
Exactement, si je vous ai bien exactement, lu. Exactement. Très très bonne lecture.
La tradition des mets, un petit mot sur cette tradition des mets?
Oui, la tradition des mets, donc le 1er mai, ça concernait, alors là par contre c'est purement laïque, donc ça concerne une fois de plus la vie de la communauté. C'est-à-dire parmi les traditions les très très importantes des villages et des villes aussi, il y avait évidemment les noces. Et donc les mets servait à désigner par apposition donc de jeunes arbres coupés sur la façade des maisons concernées justement les lieux où se trouvaient les jeunes filles à marier. Donc les mets étaient découverts la journée, et là on a une anticipation de la journée justement très intéressante, parce qu'on devait les couper la nuit. Alors pourquoi pas le jour précédent, le 1er mai? L'histoire ne le dit pas, mais on sait simplement que l'arbre, le jeune arbre, devait être coupé la nuit précédant donc caractère encore sacré et extrêmement symbolique de la nuit.
Alors on n'a pas le temps de tout évoquer, bien évidemment on ne peut pas parler du carnaval, mais j'encourage nos auditrices et auditeurs à se procurer votre ouvrage pour plus d'informations, bien évidemment. Vous évoquez alors les bêtes, les monstres et les pierres de légende, là aussi la pierre qui vire, que nous connaissons bien dans le département de Lyon. Vous parlez aussi de cette affaire de la bête de l'Auxerrois, cette bête terrible qui apparemment était un loup et qui, entre 1731 et 1734, a fait non seulement beaucoup de victimes, mais à terroriser les campagnards. Un petit mot peut-être sur ces étranges personnages au pouvoir exceptionnel que sont les meneurs de loups.
Alors le meneur de loups, paraît-il, leur existence aurait été attestée. J'en veux pour exemple une histoire qui s'est passée au XIXe siècle, où un homme, bon, à l'occasion d'une rencontre avec un autre homme, lui dit « Écoute, les meneurs de loups existent, je vais te le prouver. » Donc la nuit tombe, il amène son ami à la lisière d'un bois et disparaît. Alors l'individu se planque derrière un buisson, regarde. La nuit, il faut imaginer que la pleine lune est vaillante, éclaire le paysage. Et il voit effectivement une ombre avec quatre loups qui le suivent. Qui suivent cette ombre. Alors il est très étonné. Alors l'homme leur parle et vraisemblablement les guides où il veut. Et l'apparition, enfin l'homme disparaît, les loups aussi. L'homme revient vers son ami, lui dit voilà, c'était moi, mais je vais t'avouer, ces loups, je les ai menés effectivement. Mais c'est moi qui les ai recueillis quand ils étaient très jeunes. Et donc, évidemment, maintenant, ils me reconnaissent comme étant leur mère et ils me suivent quand j'apparais. Donc, les meneurs de loups, mythe, légende, réalité, on ne sait pas. C'est tout à fait...
Fantasme aussi.
Presque. Mystère, fantasme et réalité, le sous-titre de mon livre.
Alors on va, nous, disparaître quelques instants pour laisser place à la dernière pause musicale. On écoute Bachung et c'est Osez Joséphine.
À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéran. À qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Usez le sourire, usez le sourire, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Joséphine, osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Claude Lugnot, on ne peut pas, on ne pourra pas parler des loups-garous, des lycanthropes ou des galipotes.
Oui, les galipotes, oui.
Un petit mot peut-être sur l'éclairage des rues sous Louis XIV. Finalement, il faut attendre. Alors, on a encouragé à une époque au Moyen-Âge la population à mettre des bougies sur les rebords de fenêtres. Enfin, c'était déjà aussi non seulement très coûteux, mais en plus dangereux parce qu'il y avait toujours cette crainte des incendies. Et puis, ouais, c'est sous Louis XIV qu'on essaie un peu d'installer des lanternes pour rendre les rues un petit peu plus sûres. Un petit mot peut-être sur l'histoire rapide de l'éclairage public en France.
Oui, c'est effectivement Louis XIV qui a instauré l'éclairage public. Mais enfin, il faut remettre les choses dans leur contexte. Comme disait un écrivain de l'époque, les lanternes qui donc pendaient d'une façade de maison à une autre, donc suspendues à une chaîne, n'éclairaient que les ténèbres. C'est-à-dire ça éclairait que dalle. Ça faisait partie des vœux pieux. Mais enfin, avec l'idée était que les ténèbres engendre le mal. C'est-à-dire que les voleurs, les bandits, les argousins de l'époque se cachaient dans les ténèbres pour attaquer le bon bourgeois qui passait. Mais en fait, on s'est rendu compte avec l'avènement de l'électricité au temps moderne que c'était encore une fois à double tranchant et que en fait, l'électricité publique servait aux voyous pour identifier la victime potentielle, parce qu'il faut se remettre... Donc, quand vous êtes dans le noir, vous attaquez quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir sur qui vous tombez. Et vous pouvez très bien vous retrouver face à quelqu'un de plus fort que vous et de mieux armé. Et donc, vous pouvez passer de vie à trépas en croyant que ça serait une cible facile. Et pour en revenir à ce que vous disiez, c'est effectivement sous Louis XIV que l'éclairage a commencé à se démocratiser pour en arriver à l'électricité de ville, après beaucoup de tâtonnements et beaucoup d'efforts.
Dans le dernier chapitre, qui a pour titre « Enfin, la lumière vint », vous évoquez effectivement le problème de la criminalité, des travailleurs de la nuit, des prostituées également, puisque la nuit est coquine aussi, Claude.
Coquine, bien sûr, bien sûr.
La nuit... Et cela ne vous a pas échappé?
Non. La nuit est un espace privé, et donc ce qui se passe dans le privé, on peut l'imaginer... Et aussi le pratiquer dans la mesure où chacun a sa part de liberté dans la nuit.
En tout cas, Claude Lougnot, merci de vos lumières pour nous avoir aidé à traverser un petit bout de cette nuit à travers les âges. Je rappelle pour les curieux et celles et ceux qui veulent bien évidemment approfondir les aspects de notre entretien, eh bien je les encourage à se procurer en librairie votre ouvrage « La Bourgogne, la nuit, mystères, fantasmes et réalités ». C'est aux éditions de Bourgogne. Claude Lougnot, merci d'avoir été avec nous ce soir à bord du 150e numéro de Wagon Livre. Et puis, prochain travail alors, peut-être ?
Alors, je change complètement de sujet, si on peut dire, puisque j'aborde la philosophie. Je suis philosophe de formation et donc je reprends un travail interrompu pendant une trentaine d'années.
Donc il y a des philosophes des Lumières et des philosophes de la nuit ?
Ah, il y a aussi les philosophes des Lumières, effectivement, hein, qu'on relit toujours avec plaisir.
Merci Claude Lougnot.
Merci à vous. Thank you.